vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Jean-Marc Dreyfus pour son nouveau livre « L'affaire Petiot et la Shoah, un tueur en série sous l'occupation » qui vient de paraître chez Grasset. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Sandrine.
Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est une première et c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Et pour débuter, quelques mots de présentation. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Manchester et chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous êtes notamment spécialiste de la Shoah en France et en Europe de l'Ouest. Vous avez consacré plusieurs études à des thématiques comme l'arianisation des biens juifs, les restitutions, les exils ou la mémoire fragmentée des victimes. Est-ce que j'oublie une thématique importante de vos recherches ?
Alors, je travaille sur la spoliation et la restitution des œuvres d'art aussi. Je m'intéresse aussi beaucoup aux témoignages de la Shoah, aux journaux, j'en ai publié pas mal.
Voilà. Et vous êtes donc l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur ces sujets, mais aussi de documentaires. Et votre actualité qui nous vaut votre présence ici aujourd'hui, c'est donc la parution de cet ouvrage, « L'affaire Petiot et la Shoah, un tueur en série sous l'occupation » chez Grasset. C'est un livre qui surprend autant qu'il fascine. Parce qu'on connaît toutes et tous le nom de Marcel Petiot, surnommé Docteur Satan, qui a été l'un des plus terribles tueurs en série du XXe siècle. Mais ce que vous démontrez dans ce livre, c'est que cette affaire, trop souvent réduite à un fait divers macabre, est en réalité un chapitre méconnu de l'histoire de la Shoah en France. Grâce à un travail sur les archives, vous révélez que la majorité des personnes assassinées par Petiot étaient juives ou en lien avec des réseaux de fuite pour juifs traqués. Et vous démontrez avec clarté que son procès en 1946, voulu comme apolitique, fut en réalité l'un des premiers espaces publics où la persécution des Juifs de France fut décrite avec précision dans toute son horreur. Votre livre se lit avec la tension d'un thriller tout en restant un travail d'historien rigoureux, exigeant, soucieux de restituer non seulement les faits mais aussi les voix, les silences, les noms oubliés, et je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé. C'est un essai qui fascine, en même temps qu'il dérange, parce qu'il nous fait réfléchir à ce que la société française de l'époque a choisi de voir ou refuser de voir, voire d'occulter. La première question qui s'impose, Jean-Marc Dreyfus, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de rouvrir le dossier Petiot ?
Alors, tout d'abord, Sandrine, merci beaucoup pour vos compliments. J'en suis d'autant plus content que c'est exactement ce que j'ai réussi, que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire un livre sérieux d'histoire, mais pas trop ennuyeux. Voilà, donc l'écrire comme un true crime, on dirait plutôt qu'un roman oui. policier, donc un vrai fait divers. Et voilà, donc merci beaucoup de votre appréciation. Donc j'ai aussi essayé de pas écrire trop long. Il y a des notes de bas de page quand même, oui. pour quand même montrer que c'est un énorme travail de recherche historique en utilisant les bonnes vieilles méthodes de l'histoire positiviste apprises en Sorbonne. Voilà. Alors, l'affaire Petiot, effectivement, elle est à la fois connue et oubliée. Je dirais que pour les personnes, les Français un peu plus âgés, ça fait tilt. Petiot, il se rappelle parce qu'il y a eu toute une production, je dirais, de littérature populaire, voire très populaire, jusqu'à récemment, sur ce meurtrier en série. Le terme est récent, il n'était pas utilisé à l'époque, qui est quand même le plus grand criminel en série de l'histoire de France reconnu. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres serial killer qui a tué, la magistrature a reconnu comme ayant assassiné autant de personnes. On est quand même à 26 personnes. Je pense qu'il y en avait 27 en fait. Et donc ça fait beaucoup. C'est beaucoup plus que Thierry Paulin, etc. Il faut comparer à Landru. Alors, c'était connu et inconnu. Il y avait une littérature populaire, une littérature, pardon, du terme journalistique, qui était assez mauvaise et on recopiait en fait ce qui avait été écrit dans l'immédiate après-guerre, avec la connaissance quand même que la majorité des victimes étaient juives. Mais d'abord, on ne savait pas qui elles étaient. Il y en avait trois qui étaient décrites, trois précisément, Dreyfus, Gouchinov et Braunberger, mais les autres n'apparaissaient pas. Donc c'était déjà savoir qui étaient ces autres victimes. Et deuxièmement, il y avait une espèce d'évidence. Ben oui, on est dans le Paris occupé, ben les Juifs, ils meurent. C'était normal. Et c'était quelque chose qui n'était pas explicité. Vous pouvez reprendre les ouvrages. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose là qui ne va pas. Hein, c'est pas normal que des Juifs meurent dans Paris occupé, qu'ils soient arrêtés et déportés. Bon, on le sait, mais pas qu'ils soient assassinés dans Paris. Alors ça, c'est la première interrogation. Et puis j'ai de la bouteille, je travaille beaucoup dans les archives, et donc j'ai écrit à mes archivistes préférés, et vous savez qu'on est très très bien servi en France, même si on s'en plaint, nous avons des archivistes formidables, tout est bien classé, accessible, avec des règles claires d'accessibilité, et je tire mon petit fil, et me tombe dessus 5000 pages d'archives, de police, le dossier d'instruction, et puis naturellement la presse, et puis un petit, alors on pourra en parler si ça vous intéresse, mais quand même un petit lien familial, hein, donc je pourrais vous en parler, donc il faisait qu'il y a une mémoire familiale de cette histoire chez nous, du côté de...
Alors on peut en parler maintenant, parce que le nom Dreyfus apparaît, on se demande toutes et tous en lisant, est-ce que c'est lié à votre famille ?
Alors voilà, donc je très simplement, dans ma famille juive alsacienne, où il y avait naturellement une mémoire de la persécution, peu de la déportation, la famille a survécu, hein, dans sa grande majorité, mais mémoire de la persécution, de l'exil, de la cachette, du passage en Suisse. Ma grand-mère disait, un tel a été déporté dans son cousinage. Et le Ivan Dreyfus, elle disait ça avec son accent alsacien prononcé, le Ivan Dreyfus, lui, il n'a pas été déporté, il a été tué par Petiot. Et donc, il y avait un lien qui était fait, encore qui n'était pas explicité. Donc, on était dans la liste, quand même, des victimes de la Shoah. Et il y avait une petite note de bas de page qui disait, bah, lui, voilà, on ne sait pas où le mettre, en fait, là-dedans. Alors, ce Ivan Dreyfus...
Est-ce que ça peut justifier en partie votre intérêt pour le sujet ?
Ah, bien sûr, tout à fait. C'est ça qui m'a... Donc, moi, quand j'étais adolescent, je m'intéressais à l'histoire de la famille. Mon prochain livre sera sur ma famille. J'espère que vous m'inviterez.
Avec plaisir.
Sur la famille donc, de Juifs alsaciens de la campagne. Et puis il y avait un petit bouquin qui là encore de cette littérature populaire que voilà qui était chez la tante Germaine, donc elle a été à la poste pour me l'envoyer, vous voyez, c'est cette espèce de mémoire, et donc voilà, c'est quelque chose qui m'accompagnait pendant des années sans que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Alors je tombe sur mes 5000 pages d'archives, et donc il y a ce Ivan Dreyfus qui est l'un des personnages qui d'ailleurs n'est pas de la famille Dreyfus, qui est de la famille de l'autre côté, mais comme vous savez, tous les Juifs alsaciens sont cousins, ou à peu près. Et donc, j'ai explicité, j'ai essayé d'expliciter qui était cet Ivan Dreyfus, sur l'histoire duquel il y a des couches et des couches de mémoires, de controverses et de récits que j'ai essayé de sortir. J'ai essayé de sortir de cette gang des siècles, enfin des 80 ans, la réalité de ce personnage tout à fait intéressant qui est tombé comme victime de Petiot, mais dans des circonstances tout à fait extraordinaires. Je dis toujours, si j'avais proposé en roman cette histoire de Petiot, les éditeurs n'auraient pas accepté parce que c'est trop incroyable. Voilà. Donc en fait, il était résistant, il était interné à Compiègne et il a servi de mouton. La Gestapo l'envoie dans les griffes de Petiot parce qu'on pensait que Petiot était un résistant qui avait un réseau très organisé pour exfiltrer hors de France les Juifs que l'on pourchassait.
Alors c'est toutes ces ambiguïtés, hein, parce qu'on s'aperçoit, et quand on connaît l'histoire et à vous lire, que rien n'est tout blanc ni tout noir, et même le gris, c'est une couleur qui n'est pas vraiment adaptée. Juste pour revenir aux archives, hein, vous nous en avez parlé, des archives policières, dossiers d'instruction, des témoignages rares. Ces archives, donc ces 5000 pages, est-ce qu'elles avaient, selon vous, déjà été étudiées ? Ou est-ce qu'elles ont été oubliées tout simplement dans un coin d'un lieu d'archives ?
Alors, oubliées, non. Parce que là encore, elles sont parfaitement classées. Il suffit d'écrire une lettre ou un email maintenant aux archives de la préfecture de police, aux archives de Paris, c'est le département de la Seine, puis aux archives nationales. Et puis, on vous envoie, rien n'est caché, on vous envoie les dossiers qui sont disponibles. Alors, peut-être une anecdote quand même. Une des matières, on le voit dans cette littérature populaire, là encore, je ne veux pas être méprisant, hein, mais c'est la réalité de ce qui existait avant mon livre, premier livre universitaire, c'est qu'on a beaucoup lu les retranscriptions du procès. Et donc, il y avait pour les grands procès d'assises, à l'époque, on n'avait pas le droit d'enregistrer ou de filmer, on avait le droit de prendre des photos à l'époque, mais il y avait un cabinet qui prenait en sténo l'intégralité des débats, des audiences. Et ça, c'est conservé aux Archives nationales. Le problème, c'est que je n'ai retrouvé aux Archives nationales qu'un jour et demi de retranscription des débats. Donc, c'est l'histoire d'Ariane Caen, si on en parlera si on a le temps. Et je sais que les autres journées du procès, 3 semaines quand même, existaient puisqu'elles sont citées dans les autres livres, mais ça a disparu. Alors, je ne sais pas si ça a été volé, ce qui est possible. C'est possible que l'un de ces auteurs ait pris sous le bras, je ne sais pas, en 62 ou en 70, les auteurs. Donc, je les cherche encore, voilà.
Il est peut-être nécessaire de revenir, alors c'est pas facile, en quelques phrases sur cette affaire Petiot. Est-ce que vous pouvez nous résumer qui il était et en quoi consistait cette affaire finalement ?
Alors, le docteur Petiot, c'était un bon docteur, populaire, qui venait de Lyon et qui arrive à Paris en 1934, où il s'installe en rachetant un cabinet médical rue Comartin, au 66. Donc on est entre la gare Saint-Lazare et les grands magasins. Un quartier très passant, et il a une clientèle très populaire de passage, mais aussi de gens modestes, à qui souvent il ne fait pas payer la consultation. Il est un peu original. Il a des lubies. Il se raconte qu'il a des inventions, qu'il invente des machines. Il a des problèmes avec le Conseil de l'Ordre à l'époque. Bon. Mais on le prend plutôt pour un doudingue et un bon médecin très dévoué. La rumeur commence à courir dans ces milieux interlopes. C'est intéressant, c'est que ces milieux interlopes se mélangent. On a des juifs très respectables qui vont rentrer en contact avec ces milieux interlopes de petits banditismes, de petits escrocs, parce que ces gens-là peuvent leur offrir des services, passer la ligne de démarcation, avoir des fausses cartes, etc. C'est quelque chose qui n'a pas été décrit dans l'histoire de la survie des Juifs de France. Et dans ces milieux du marché noir, commence à courir le bruit qu'il y a un docteur qui a un réseau de résistance très organisé qui fait passer les Juifs et autres personnes pourchassées, autres proscrits de l'époque, vers l'Amérique du Sud ou l'Espagne, selon les versions. La Gestapo, qui est très bien organisée, qui a des indices, va prendre cette histoire, même par deux sources différentes, et va le pourchasser, mais on ne sait pas qui c'est, et va le retrouver et l'emprisonner à Fresnes pendant 6 mois et le torture. En le torturant, il ne dit rien et il sort. Il sort et quelques jours après sa sortie, il y a les pompiers qui sont appelés parce qu'il y a un incendie et de la fumée qui sent très mauvais, vous devinez pourquoi, rue Le Sueur, qui est une petite rue à côté de l'avenue Foch. Et rue Le Sueur, les pompiers rentrent et découvrent, découverte macabre, on est le 11 mars 1944, donc à la fin de l'occupation, et découvrent un charnier, des corps découpés en train de brûler dans un petit poêle qui était en fait une calorifère. Donc vision d'horreur absolue, on a tout d'un coup ces corps découpés, pas identifiés, des crânes, etc., dans le sous-sol, en fait la cuisine de ce petit hôtel particulier. C'est le début de l'affaire, Petiot part en cavale, et j'ai décrit l'enquête, je crois que l'enquête en elle-même pourrait être un livre du commissaire Massu, qui dirige la brigade criminelle, qui est le modèle de Maigret. C'est vraiment Maigret, on le voit sur les photos, chapeau mou.
Et c'est très visuel, ça pourrait être un film aussi.
Ça pourrait être un film, il y a beaucoup de photos. C'est une affaire qui a été énormément photographiée dès le 13 mars, le lundi 13 mars. On a des photos très détaillées dans la presse. Et c'est une affaire très médiatique. Le commissaire Massu va... Et c'est extraordinaire, c'est la grande enquête dans le Paris occupé, va identifier la plupart des victimes très vite, en un mois. Il se rend compte que la plupart des victimes sont juives, mais il n'y a pas que des juifs, il y a aussi des malfrats, le milieu, hein, vraiment la mafia, des gens très dangereux qui ont travaillé pour les Allemands, se sont mis au service des diverses officines allemandes et ont un peu piqué dans la caisse eux-mêmes. Hein, et donc on a Adrien la main froide, hein, je ne l'invente pas, mais bon, c'est qui on dirait un roman noir, quoi, de la série noire, et qui ont un peu piqué dans la caisse, se sont disputés avec leur maître de la Gestapo, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, et donc eux-mêmes ont besoin de se mettre au vert très vite et vont aller voir le docteur Petiot et disparaissent avec leur maîtresse qui sont, elles, des femmes encartés dans des maisons closes. Alors, on a des milieux qui se mélangent.
Qui se court-circuitent, oui.
Je termine, donc Petiot est en cavale, c'est extraordinaire, on ne sait toujours pas aujourd'hui exactement où il était, et il est arrêté à la fin du mois d'octobre 1944, donc après la libération, après 6 mois de cavale, non pas par la résistance, comme on l'a beaucoup écrit, ça c'est un des scoops, un des nombreux scoops de mon livre, il est arrêté par les services secrets de la France libre. par le BCRA. Et là, c'est la grande affaire qui repart. Et il y a ce procès en mars et avril 1946 qui passionne les foules. Et à ce procès, c'est, vous voyez sur la couverture, il y a ce mur de valises qui sont les pièces à conviction. Voilà, déjà à l'époque, ce mur de valises, ça évoque naturellement les images des camps de concentration.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la personnalité de Petiot, mais finalement, qui il était? On ne sait pas vraiment. Est-ce que c'était un collaborateur, un résistant, un agent double? Est-ce qu'il pouvait être tout ça à la fois? Est-ce qu'il était foncièrement antisémite? Est-ce qu'il était avide d'argent? Est-ce qu'on connaît sa motivation? Quelle est votre intime conviction sur le sujet?
Alors, motivation, il n'y a aucun doute, c'est le fric, l'argent. Ouais. D'ailleurs, on dit toujours que les serial killers français, ils tuent pour l'argent, les serial killers américains, ce sont des problèmes sexuels. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, souvent, vous pensez aux grandes affaires qui fascinent. Hein. Enfin, sur Netflix, vous voyez les séries souvent très bien faites. Et alors, c'était le bon médecin. Il était complètement cinglé, c'est sûr. Bon, alors, quel type de cinglerie? Je ne sais pas, je ne suis pas...
Oui, il a eu des grosses affaires avant.
Enfin, avant, voilà.
Des accusations d'un meurtre.
On a soupçonné qu'il aurait tué sa bonne déjà quand il était en... Il était dans Lyon. Ce qui est sûr, c'est que pour la première partie de sa vie jusqu'en 1934, c'est le bon médecin. Il est radical socialiste, il est très à gauche, il est très laïque et il fait une petite carrière politique dans son bled de Villeneuve-sur-Saône où il est très populaire, il devient maire. Puis il y a des tas d'affaires qui sont souvent des salaires de doudingue, il est kleptomane, voilà, des choses comme ça. Alors ça, c'est sûr, on n'a aucune trace à ce moment-là qu'il soit antisémite. Au contraire, hein, c'est un laïc de gauche... pour le Front populaire, il émerge de sa fuite avec une carte du Parti communiste quand même. Il devient communiste à la fin de la guerre. Alors, était-il antisémite? Au procès, il y a quand même beaucoup de remarques. C'est d'ailleurs la première phrase du livre.
C'est l'incipit.
Et alors, quand on publie un livre, on a toujours le bonheur et en même temps le malheur à la fois, qu'on a des gens qui vous disent « Ah, mais moi j'ai des informations nouvelles suite à votre livre ». Et donc, le scoop, c'est, il ne faut pas aller chercher très loin, c'est Karen Taïeb au Mémorial de la Shoah qui dit « Ah, ben moi j'ai des lettres de lui ». Là, la semaine dernière, je dis « Karen, tu me dis ça maintenant ». Vous voyez, des lettres de lui obsessionnellement antisémites. Donc, vraiment terriblement antisémite. Je ne les avais pas retrouvés avant. Bon, il faut que j'aille les lire. Donc, il a été à la fin aussi antisémite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une personnalité aussi troublée? On a vraiment vérifié qu'il n'a pas été dans la résistance. Ça, c'est sûr. Il n'a pas été résistant. Ça a été une grande obsession de prouver qu'il n'était pas résistant, bien qu'il l'ait prétendu. On a beaucoup écrit dans les années 60 qu'il était collabo, qu'il était en lien avec la Gestapo française, avec les différents services. Là encore, il n'y a aucune trace. Et je pense, comme il y a eu beaucoup de procès de ses collaborateurs, la Carlingue, la rue de la Pompe, etc., tous ces Français qui ont travaillé, il y a quand même des dizaines, des centaines de personnes qui ont été interviewées. Quelqu'un l'aurait dit. Quelqu'un aurait dit « Ah ben, Petiot, on l'a vu ». Non. Donc là, il n'y a pas de trace non plus. Hein. Ce qui est quand même très troublant, c'est qu'il ait pu... agir probablement seul, donc tuer 26 personnes, avec des gens qui disparaissaient et que la police n'a rien fait. Voilà, n'a rien fait. Alors que les familles allaient porter plainte à la police, allaient dire « voilà, mon mari a disparu ». Et la police était au courant qu'il y avait des disparitions louches, mais...
On était pendant la guerre, sous l'occupation.
Et quand un juif
disparaît... Et ça l'a servi, finalement.
Voilà, quand un juif disparaît en 1943 dans Paris, la police ne se mobilise pas.
Alors, il y a une autre particularité, je vais vous lire. Je voulais aussi lire l'incipit, mais vous en avez parlé. Vous, l'avocat des juifs, taisez-vous. C'est ce qu'il dit du box des accusés en parlant à l'avocat de la famille Dreyfus. Donc, c'est assez troublant. Et je cite un autre passage... Si l'on ne saura probablement jamais la vérité sur les morceaux de corps retrouvés dans la Seine, il est sûr que la spécificité de l'affaire Petiot est bien que les crimes restèrent sans cadavre ou presque, en tout cas sans cadavre complet. Parce que ça aussi, ça a été une difficulté supplémentaire, pas de possibilité d'identification. Et là, avec peut-être nos traumas qui sont les nôtres, eh bien on pense au crématoire d'Auschwitz et aux victimes sans sépulture de la Shoah. Alors, c'est presque la double peine.
Nous y pensons naturellement, mais je dois dire qu'à l'époque, on en a parlé de façon très précise. C'est-à-dire que dans la presse et à ce procès, là encore un procès qui a mobilisé les foules, qui a passionné les foules, les gens se battaient pour entrer dans le palais de justice. J'ai un chapitre là-dessus, de façon très explicite, on se réfère, que ce soit la défense, le procureur ou les témoins, on se réfère au camp de concentration.
Oui. Alors, vous dites, je crois que c'est votre formule, hein, c'est l'un des premiers procès de la Shoah en France en 1946.
Alors, ce n'est pas un procès de la Shoah, c'est une hypothèse que j'ai posée et que je pense l'avoir à peu près montrée, en tout cas je l'espère, c'est qu'à ce procès, on a décrit la persécution des Juifs de France en détail. C'est-à-dire qu'on a la famille, on a les veuves, on a les femmes des personnes disparues, on a, et je le montre très bien, on décrit le passage de la ligne de démarcation, les juifs qui se cachent à Paris ou ailleurs, les enfants cachés, les spoliations, la réalisation économique, et également le passage des frontières, puisqu'une grande partie de ces juifs victimes, qui n'avaient pas été décrites, sont en fait des juifs allemands, qui arrivent d'Amsterdam, où ils s'étaient réfugiés dans les années 30, clandestinement, à Paris, au début du mois de juillet 1942. Ce qui est également un scoop et tout à fait fascinant.
Vous redonnez vie, finalement, aux victimes, parce que vous détaillez vraiment leur parcours, comment elles se sont retrouvées, ce qui s'est passé. Et finalement, c'est un livre, on pense aussi à une sorte de mémoire bourreur, un livre de la mémoire. Et ça donne ça rend visible des personnes qui avaient été invisibilisées. Est-ce que c'était ça aussi un peu votre démarche?
Oui, bien sûr. Oui, c'était... Alors, je ne sais pas si les victimes de Petieux sont des victimes de la Shoah. Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais oui, c'était pour moi très important de redonner leur nom. Il y a une liste de noms à la fin du livre.
Il y a quelque chose de troublant aussi, c'est qu'il était marié. On ne sait pas exactement le rôle de son épouse. Est-ce qu'elle était au courant ou pas? Probablement oui. Le frère aussi, on ne sait pas trop parce qu'il avait quand même des bagages. Et puis on a tous en tête cette photo qui est en couverture avec ses monceaux de bagages parce qu'il les gardait, les bagages. Et puis il y a le prénom de leur enfant, Gerhard.
Tout à fait mystérieux.
Oui,
Gerhard et non pas Gérard.
Oui.
Alors, je me suis demandé si ce n'était pas un geste pacifiste pour un ancien combattant de Craon qui a été gazé, Petiot. Peut-être que l'origine de sa folie vient de là, d'ailleurs, de traumatisme de la Première Guerre mondiale. Je me suis demandé s'il n'a pas voulu faire un geste pacifiste, lui qui était de gauche, en tout cas dans les années 30, en disant « je vais donner un prénom allemand ». Mais je n'ai aucune trace. Je sais qu'en plus, l'orthographe n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il s'appelle Gerhard avec DT, ce qui ne veut rien dire en allemand. Normalement, il y a un D.
Qu'est-ce qu'il est devenu?
Alors là aussi, c'est un grand mystère. Il y en a beaucoup. À la fin, je l'explique, il reste beaucoup de mystères dans cette affaire. On sait qu'il est parti. On a beaucoup dit qu'il était parti en Argentine, peut-être pour faire un parallèle encore avec les criminels nazis. En fait, il part au Brésil. Le nom de Petiot est impossible à porter dans la France des années 50. Il est trop négativement connoté. Ce qu'il a fait là-bas, je sais qu'il a vivoté, il n'avait pas d'argent, mais il est mort en France, très âgé, donc revenu mourir en France à Paris.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Jean-Marc Dreyfus, qui nous parle de son actualité, la parution de l'affaire Petiot et la Shoah, un tueur en série sous l'occupation, chez Grasset. Il y a vraiment beaucoup de questions à vous poser, mais il faut lire le livre. Là, on arrive en plus à une période où on sera peut-être un peu plus détendu en fin d'année, et c'est un livre à emporter avec nous en vacances. Le livre montre quand même une certaine faillite des institutions, la police, les complicités, les ambiguïtés de l'époque. Et puis, c'est pas forcément uniquement le portrait d'un tueur en série qui est fait, mais c'est une sorte de radiographie de l'époque. L'historien que vous êtes était attaché à cette idée-là, sans doute.
Oui, radiographie en tout cas d'une petite partie de la société française qui, à mon avis, n'avait pas été décrite en lien avec la Shoah. On voit quand même ces escrocs à la petite semaine qui font passer les Juifs, la ligne de débarcation, vont chercher des gens, promettent des monts et merveilles en dehors de Petiot. Il y a quand même tout ce monde autour qui est très fascinant. Et puis il y a sa rabatteuse, Ariane Caen, cette juive roumaine. Alors là, c'est quand même le pompon. On a du mal à le croire. Qui était-elle? Elle sort quand même de la guerre. Donc juive roumaine et enregistrée comme juive. On a sa carte. Elle sort de la guerre d'un côté comme résistante et en même temps comme collabo. Donc elle a une médaille et de la résistance, et elle passe 3 mois en prison pour collaboration. C'est quand même assez réussi.
La figure de Petiot fascine, dérange. Est-ce que vous avez réussi à mettre une distance? Vous êtes historien, vous avez l'habitude avec le personnage, ou est-ce que vous avez été quelque temps habité, peut-être même comment dire, il y avait quelque chose de amusant, plaisant à décortiquer un tel personnage.
Alors, par rapport à mes travaux de
fascination morbide,
voilà, fascination morbide, bon, peut-être, si vous le dites. Non, j'ai pas du tout été habité par le personnage, il est trop médiocre. Peut-être que ce qui m'a rendu l'écriture assez facile, en fait, et même plaisante, c'est qu'en fait, c'est pas Petiot qui m'a fasciné, c'était plutôt les victimes juives allemandes. Enfin, victime juive, l'histoire de ces victimes.
Plus personnellement, qu'est-ce qu'on en a dit dans votre famille ?
Alors, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué parce que, là encore, on ne sait pas comment le poser. On m'a dit que c'était très bien, mais voilà, on n'a pas, poussé plus loin.
Référence avec ce Dreyfus.
Avec ce Dreyfus, on m'a dit que c'est très bien, mais il n'y a pas eu d'éclaircissement et de grandes discussions à ce propos.
Est-ce que vous pensez à la réception du livre, à qui il s'adresse selon vous, à un public assez varié, des personnes intéressées un peu par ce genre d'histoire presque à la fois sordide et romanesque, hein, c'est du thriller, des personnes qui s'intéressent à l'histoire, à cette période de l'histoire, à nos institutions.
Oui, alors il y a, forcément c'est un livre aussi sur la Shoah, c'est là, le mot Shoah est dans le titre. C'est un livre sur la Shoah aussi. C'est un petit livre sur la Shoah, mais je pense que ça apporte une pierre. Mais c'est aussi un livre qui peut intéresser les très, très, très nombreux amateurs de romans policiers et de true crime, de vraies histoires criminelles.
Vous avez mis combien de temps à l'écrire ?
Alors, peu de temps. C'est un petit livre. Peu de temps, mais très longtemps pour faire les recherches et lire, dépiauter vraiment mot par mot les documents, et puis surtout pour trouver le ton, la façon de l'écrire.
Est-ce que vous travaillez à l'heure actuelle sur un sujet aussi fascinant ?
Oui. Alors, je vous dis, j'ai trouvé un autre sujet. Je ne vais pas faire tous les criminels en série oubliés d'Histoire de France, mais je travaille sur le serial killer de l'avant-guerre, celui qui a été exécuté en juin 1939, donc juste avant la guerre, et qui se trouvait être allemand. C'est intéressant parce qu'il était allemand, mais parmi ces 6 victimes, ces petits joueurs, 6 victimes par rapport à Petiot, parmi ces 6 victimes, il y a quand même un juif, peut-être 2. Intéressant, quand même. Parce qu'on en a dit Weidmann, il s'appelait Eugen Weidmann.
Il y a une question habituelle dans cette émission, mais qui reste difficile. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom, de lire l'affaire Petiot et la Shoah, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je crois que vous leur avez donné envie, non ? Avec vos remarques. Donc, j'ai dit, un livre tout à fait sérieux, rien n'est inventé, mais qui se lit comme un roman policier.
Je crois que tout est dit. Il ne reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Jean-Marc Dreyfus, d'avoir accepté de parler de cette actualité. Vous l'avez compris, c'est un livre que l'on recommande. Alors, pour la précision historique, et puis surtout, qui nous aide à revoir quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément dans ses détails, et ce lien à la Shoah, et en même temps redonner vie à des victimes parties sans sépulture. Merci, à très bientôt.
Merci Sandrine, merci beaucoup.